France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Émilie Rousset. À 19h45, le son du jour, But Not Kiss, de Faye Webster. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui est toujours à Marrakech pour nous faire vivre le festival de danse On Marche. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Dalia et Guillaume Ficheux à la prise de son. Bonsoir Émilie Rousset.
Bonsoir Arnaud Laporte.
Plusieurs de vos spectacles, propositions, ce terme spectacle, on en reparlera peut-être, sont en tournée en France et en Europe cette saison et cette année. Reconstitution, le procès de Bobigny, version réactualisée au Volcan, c'est National du Havre, ce sera les 12 et 13 mars, ce sera ensuite au TNB à Rennes au mois de mai. Rituel 5, la mort, qui avait été créé au Festival d'automne en 2022, sera au Théâtre Garonne en mars, puis à Lyon au Sub et au Lieu Unique en avril. Paysage partagé, on expliquera de quoi il s'agit, va se promener en Autriche, en Italie, au Portugal, en Slovénie, en Espagne, en tout cas, voilà de belles occasions pour revenir sur votre parcours, pour savoir ce qui le nourrit, et par conséquent, comment se créent concrètement vos propositions artistiques. Alors le théâtre, même si le mot peut être réducteur concernant votre travail, on va y revenir là aussi, ça n'a rien d'une évidence, je crois, pour vous, au départ, Émilie Rousset. Il y a même un premier souvenir marquant au théâtre, quand vous voyez, adolescente au TNP, un spectacle de Mathias Langhoff, L'île du salut, d'après la colonie pénitentiaire de Kafka, on va y revenir là aussi. Mais tout d'abord, Émilie Rousset, quelle place avait justement l'art, la culture, peut-être même le théâtre dans votre environnement familial, amical ?
Non, j'ai commencé assez tôt, en fait, le théâtre. J'ai fait club théâtre à Châtenois-le-Royal.
À quel âge ?
Puis, je sais pas, 7-8 ans.
Ah oui !
Mais avec
parce que vos parents vous y ont inscrit ?
Je crois que c'est moi qui ai voulu.
Ah.
Je crois que c'est moi qui ai voulu. Et avec une professeure super, parce qu'en fait, peut-être 9-10 ans, mais en fait, on jouait des textes de Peter Handke, de Fassbinder. Et en fait, je comprenais rien. Mais j'ai vraiment senti qu'il y avait là un univers et des idées et que j'avais envie d'y comprendre quelque chose, ou en tout cas d'y vivre quelque chose. Ouais.
Ah bah c'est un sacré début. Mais alors, si on revient à cette représentation du spectacle mis en scène par Mathias Langhoff, avant d'en parler, petite archive, la critique, Armel Héliot, dans Le Masque et la Plume, c'était en octobre 96.
Déjà, c'est une épreuve pour un spectateur qui a eu une journée de travail et qui vient au théâtre le soir.
Écoutez, 2h20, on voit vraiment bien, puis
2h20.
Très souvent.
2h20 sur ce texte de Kafka qui ne parle que de torture et dans lequel on décrit le fonctionnement d'une machine particulièrement épouvantable qui inscrit sur la peau des condamnés
leur sentence.
Et il meurt en plusieurs heures. Enfin, c'est une machine torturante. Et le spectacle lui-même est une machine torturante. Et c'est là que je trouve, moi personnellement, que Langhoff a réussi quelque chose. Je comprends que les gens s'en aillent. Mais moi, je préfère au fond un théâtre comme ça que les variations énigmatiques où au fond, on est là, on observe, mais on ne ressent rien, où il n'y a pas d'émotion. Là, au moins, on est dérangé, on est agressé. On est mal, on a envie de fermer les yeux.
Je crois que c'est vraiment ce que voulait Langhoff.
Ce que voulait Langhoff.
Il voulait provoquer son public.
Comme voulait Kafka en écrivant La colonie pénitentiaire. Et moi qui n'aime pas toujours les spectacles de Langhoff, là j'ai trouvé qu'il avait au moins répondu au projet qu'il s'est fixé.
Alors, qu'est-ce que la jeune Émilie Rousset, elle, a ressenti devant ce spectacle dont parlait ici Armel Héliot ?
Oui, bah c'est un spectacle, je pense que j'ai 15 ou 16 ans quand j'ai vu cette pièce, parce que j'étais en option théâtre, et qu'on nous emmenait voir des pièces, et c'est un spectacle qui m'a profondément marqué parce qu'en fait, à 15 ans, je l'ai détesté, mais que c'est une des pièces dont je me souviens le plus, et j'y pense encore, en fait, à cette pièce, et que je l'aime désormais infiniment, et que je cherche aujourd'hui certaines choses que j'ai ressenties en voyant cette pièce. Je me souviens quand même de cette fin où il y avait un paquebot, mais échelle 1, en fait. Il n'y avait pas... C'était un monologue, quasi, si je me souviens bien, avec aucun changement de décor. Et tout d'un coup, pour les 5 dernières minutes, si mon souvenir est bon, il y avait vraiment un paquebot échelle 1 qui rentrait sur scène. Et ensuite, tous les acteurs et les actrices mettaient des masques d'animaux et déambulaient sur le plateau jusqu'à ce que tout le monde soit sorti. Donc à l'époque, j'avais des idées très arrêtées sur le théâtre et je pensais que c'était vraiment pas ça qu'il fallait faire et que c'était ça n'allait pas, quoi, de nous traiter comme ça, nous spectateurs.
Mais quand est-ce que ça a commencé à changer dans votre esprit, ce souvenir-là ?
Bah, c'est petit à petit. Bah, déjà un spectacle duquel on se souvient quand même longtemps, longtemps après. Je dirais pas combien d'années me séparent de mes 15 ans, mais quand même, ça date un peu. C'est que c'est un spectacle fort. Ça, c'est pas forcément les spectacles sur lesquels on a une satisfaction immédiate qui sont les plus marquants. Moi, j'aime les spectacles avec lesquels on vit, une fois qu'on est sorti de la salle et on a une histoire avec eux. Donc,
ils sont pas si nombreux. Ça vaut pour les films.
Pas facile à faire.
Pour les livres. C'est pas facile à faire. Mais en tout cas, ce goût du théâtre, Émilie Rousset, donc, on voit qu'il est ancré en vous depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce qui vous fait d'abord passer par l'INSAS à Bruxelles? Merveilleuse école, mais qui est quand même, voilà, qui forme à toutes sortes de métiers. Qu'est-ce que vous allez y faire? Qu'est-ce que vous allez y chercher?
Assez vite, en fait, j'ai voulu faire de la mise en scène, donc j'ai passé déjà l'INSAS et puis ensuite j'ai fait le TNS en mise en scène aussi.
Après, oui.
Et l'INSAS, il n'y avait pas non plus beaucoup d'écoles de mise en scène à l'époque, et aujourd'hui encore, il n'y en a pas des milliards en formation, mais c'était super de me retrouver à Bruxelles parce qu'en fait, ça m'a quand même vraiment ouvert l'esprit puisque j'ai découvert la performance, j'ai découvert Wim van de Kebus, Anne-Thérèse de Kerschmaker.
C'est allé au bon moment, hein. C'est un moment d'effervescence totale de cette scène-là.
Ouais, c'était un bon moment. Et c'était une scène, en tout cas, moi, là où je vivais, en Bourgogne et à Lyon, j'avais pas vu ces pièces-là. Je savais pas que c'était possible de faire ça, en fait. Et c'était merveilleux de découvrir ça. Et puis la Belgique est un pays aussi assez ouvert, donc assez facile de rencontrer les gens, assez facile de commencer à pratiquer, de faire des stages. C'était assez formidable.
Donc TNS, ensuite, alors c'est toujours la même question, quelle que soit d'ailleurs la discipline artistique, qu'est-ce qu'on apprend dans les écoles? Qu'est-ce qui vous sert encore aujourd'hui, Émilie Rousset, de ce que vous avez pu apprendre au Théâtre National de Strasbourg, dans son école?
Ce qui est quand même le luxe d'être dans une école, c'est d'avoir à disposition des moyens de travailler. Quand on est metteur et metteuse en scène dans la vraie vie, le temps de réunir des collaborateurs, une salle, du matériel, des spectateurs, c'est quand même déjà un gros travail. Alors que là, quand on est à l'école, on peut avoir une pratique, une école comme le TNS, on peut avoir une pratique quasi quotidienne du travail avec des scénographes, avec des régisseurs, avec des projecteurs, avec des acteurs. Donc c'est quand même une expérience concrète géniale de pouvoir s'exercer.
Cette dimension concrète, avant, vous y aviez été confronté? Est-ce que vous aviez déjà ce qui forme le vocabulaire ou la grammaire d'une metteuse en scène?
Moi, j'ai essayé, j'ai assez vite fait des formes de diverses
nature.
Qualités et nature. Mais le temps d'avoir son propre vocabulaire, ça prend du temps. C'est pour ça que c'est bien d'avoir accès quand même à travailler. Et puis, le TNS, c'est aussi une école qui est dans un théâtre. Donc, on voit des pièces.
Pas n'importe quel théâtre.
Et on rencontre aussi des professeurs de diverses pratiques, techniques, scénographie, mise en scène. Donc, c'est aussi une multitude de rencontres auxquelles on adhère ou qu'on rejette. Mais qui forment.
Alors, après Bruxelles, après Strasbourg, direction Marseille, un lieu très important, Montevideo, fondé par Hubert Collat et Jean-Marc Montera, qui a récemment été mis en danger. Alors, à touche du bois, pour l'instant, il est sauvé, ce lieu-là. Un peu plus tard, vous serez en résidence à la Comédie de Reims. Là, ce sera une première, davantage en tout cas, de rencontres avec des auteurs et autrices contemporains, contemporaines, avec qui vous avez travaillé. Encore une nouvelle étape. Et puis, venons-y quand même assez rapidement, va arriver les spécialistes, ou vont arriver les spécialistes d'une proposition qui pour vous, hein, c'est vous qui le dites, le véritable point de départ de votre parcours artistique, Émilie Rousset. Alors avant d'en parler, je voudrais qu'on écoute un court extrait de l'émission de Affaires culturelles, c'était en octobre 2020, avec l'auteur et metteur en scène Milo Rao.
L'authentique, comme dans le théâtre documentaire, le trouve beaucoup. Il y a juste des personnes sur scène qui vont être eux-mêmes et qui vont raconter quelque chose de leur vie. Ça ne m'intéresse pas trop. C'est aussi passé. C'est quelque chose qui était, je crois, nécessaire à un certain moment dans l'histoire du théâtre, mais qui est aujourd'hui derrière nous. Comme le film documentaire, le cinéma vérité, à un moment a été nécessaire de dire il n'y a pas la lumière, il n'y a pas, je ne sais pas, le montage, il n'y a pas la musique qu'on met après, etc. Alors tout ça, à un moment, est nécessaire. Je crois maintenant, on a le besoin de trouver, j'appelle ça des nouvelles classiques, une nouvelle façon d'écrire de nouvelles choses, de réunir l'idée d'avoir un texte, une fiction, une professionnalité, une façon d'utiliser la langue et de représenter le réel, de retrouver la dialectique entre les deux.
Alors, il me semble, Émilie Rousset, que vous avez fait, il y a une dizaine d'années, un constat assez proche de celui de Milo Rao, que vous avez, vous aussi, cherché à trouver de nouvelles formes pour représenter le réel. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les spécialistes? Alors, il faut expliquer que c'est une proposition qui vous est faite en 2014, c'était dans le cadre de ces éditions de Monumenta qui n'existent plus aujourd'hui, qui étaient au Grand Palais, en l'occurrence celle d'Ilia Emilia Kabakov. C'était évidemment en partenariat avec la Réunion des musées nationaux. Qu'est-ce qu'on vous demande, qu'est-ce qu'on vous propose et qu'est-ce que vous proposez en retour à ce moment-là?
Oui, on me propose de créer une pièce ou une performance au Grand Palais. Donc, c'est super comme proposition.
C'est pas mal. Mais tout reste à faire.
Voilà. c'est quand même... mais ça, on me propose ça aussi parce que j'avais commencé à faire des formes qui s'éloignaient un petit peu du plateau en collaboration avec des artistes, dans des musées, des formes voilà, qu'on peut nommer plus performatives parce qu'elles ne sont pas sur scène, surtout en ce qui me concerne. Et donc, ça, c'est un moment où, en fait, je quitte un peu la boîte noire et peut-être où je me détache d'une certaine idée que j'avais et ou qu'on m'avait aussi donnée de ce que c'était la mise en scène et où je commence à trouver quel est mon vocabulaire et mon écriture. Et c'est vrai que je pense que m'être éloignée de la scène et de la pression aussi de ce que j'y projetais et de ce que c'est de faire un spectacle et d'avoir le public qui rentre le jour de la première avec cette codification-là, ça m'a permis de me libérer de certaines idées. J'ai fait des films aussi au même moment, des séries de courts-métrages avec Louise Aymon, co-réalisé avec Louise Aymon.
Des rituels.
Donc voilà, c'est aussi un moment où il y a une production de forme qui s'éloigne du théâtre, mais pour y revenir. Et donc, au Grand Palais, c'est une pièce que je fais avec Maya Bokeh, qui s'appelle Les Spécialistes, et où on décide de prendre les titres des œuvres des Kabakov. Je ne sais pas, je crois qu'il y avait une œuvre qui s'appelle La Porte et on est allé voir un architecte spécialiste des portes. Il y avait une œuvre qui s'appelait Comment rencontrer son ange. On a été voir un prêtre ouvrier de prendre un peu de façon littérale en fait des éléments de l'œuvre des Kabakov et de faire une pièce qui en parlait de manière décalée, périphérique.
De faire parler des gens.
De faire parler des gens. Et c'est là aussi où, avec Maya Bokeh, on a commencé à cette méthodologie de l'entretien, de la collecte, de spécialistes, de vocabulaire aussi spécialisé, où moi j'ai découvert vraiment une poésie à ça. C'est-à-dire que je trouve vraiment formidable quand on rencontre des gens comme ça qui ont une spécialité, qui passent leur vie à regarder quelque chose de précis. Déjà, il y a une passion, donc c'est passionnant à écouter. Et ils manient des vocabulaires d'une manière qu'on ne manie pas quand c'est pas notre pratique, en fait. Et ça développe vraiment un champ d'imaginaire, un champ esthétique, un champ sonore qui est très théâtral.
On pourrait dire que toutes vos propositions depuis auraient pu s'appeler les spécialistes. Presque.
Presque. Bon. En tout cas, oui, c'est vraiment...
Vous allez chercher des paroles très précises.
Des paroles précises, oui. Des paroles et des vocabulaires. Des pensées des expériences de vie fortes, en fait. Parce que, oui, par exemple, après, j'ai aussi beaucoup rencontré, été à la rencontre de personnes militantes. Là aussi, en fait, il y a une expertise, un engagement et un partage singulier, en fait, par la parole.
Alors, en 2015, donc, Émilie Rousset, vous créez votre compagnie John Corporation, avec laquelle donc, vous produisez depuis vos spectacles, mais aussi donc, des courts-métrages de la série Rituel, dont nous allons parler. Avant, justement, de poursuivre et de rentrer vraiment dans la fabrication des spectacles, on va découvrir votre choix musical, qui s'est porté sur un morceau de Meryl qui s'appelle Coucou. Alors, parce que vous l'aimez bien déjà, mais aussi parce qu'elle est en tournée, que vous allez bientôt la voir en concert. Mais qu'est-ce que vous aimez chez Meryl ?
J'aime sa musique, j'aime ce qu'elle représente aussi, le fait qu'elle mélange le créole, le français, je trouve qu'il y a un côté empouvoirement féministe dans ce qu'elle représente et ce qu'elle chante.
On écoute donc, on va pas chanter nous, hein. C'est peut-être qu'on va chanter en l'écoutant. On écoute Coucou.
Coucou. Coucou.
Coucou, lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout, guili guili. Coucou, lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout, guili guili. Ses mains à terre, ses fesses en l'air, elle s'est spillée en quatre. Ne lui dis pas comment faire, sa madame était dépendante. Sa position est basse, mais c'est elle, elle a la cote. Les mains posées sur le bassin, autour d'elle, tout le monde se tape. Oh là là, les cadres, les bandits d'os en bas des blocs. Oh là là, sa wine est classique, elle a mis tout le monde d'accord. Oh là là, libérez-la même dans les plus grandes vallées de mort. C'est Dieu qui l'envoie, on ouvre la bouche seulement pour dire merci. Faut la laisser faire, elle est ma vie. Pas qu'il t'habille à la oui, à oui. C'est papa qui donne, on dit merci. C'est la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout, guili guili. Coucou lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout, guili guili. Château et partout, guili guili. Tu te grattes la tête, guili guili. Six tu, guili guili. Cocop, Miguel, guili guili.
Et elle lance à l'égaine, son petit côté américain. Elle danse comme une rafale de balle, des meusses sur le terrain. Elle fait rouler les mécaniques, elle fait marcher les ménages. Elle se fait traiter de salope par celles qui ne pourront jamais faire ça. Les cadres, les bandits dos en bas des blocs. Oh là là, sa wine est classique, elle a mis tout le monde d'accord. Oh là là, libérez-la même dans les plus grandes vallées de mort. C'est Dieu qui l'envoie, on ouvre la bouche seulement pour dire merci. Faut la laisser faire, elle est ma vie. Pas qui t'habille à la oui, à oui. C'est papa qui donne, on dit merci.
Perfect. Coucou lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout, guili guili. Coucou lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout, guili guili. Coucou lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout, guili guili.
Meryl, qui sera en concert donc demain, le 8 mars à la Boîte à Musique à Metz, le 9 à la Condition Publique à Roubaix, le 16 au Zénith de Paris, le 3 avril ce sera au Bikini à Ramonville. Le choix musical ce soir d'Émilie Rousset. Mais on va évoquer à présent différentes facettes de votre pratique. Commencez par dire donc effectivement depuis 2015 vous créez avec Louise Aymon la série Rituel. L'idée de départ c'est de vous intéresser, on l'aura compris, au rituel de notre société et d'en explorer aussi, bien sûr, le potentiel théâtral. Il y a d'abord eu ces trois courts-métrages que vous évoquiez, Rituel 1, l'anniversaire, Rituel 2, le vote, Rituel 3, le baptême de mère, Rituel 4, le grand débat, lui c'est une proposition scénique. On va savoir comment vous avez conçu ce Rituel 4, on va écouter courte archive de Serge Moati en 2012 qui revenait sur la préparation des débats du second tour de l'élection présidentielle.
Il y a un corpus de petites phrases choc qu'on doit sortir. Par exemple, en 74, vous vous souvenez, il y avait une phrase terrible de Giscard, il avait dit « Vous êtes l'homme du passé », en parlant à Mitterrand. Et 7 ans après, Mitterrand avait trouvé la parade.
Vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif.
Et ça, c'est une phrase terrible. Il est resté l'homme du passif, Giscard d'Estaing. Vous voyez, ça, c'est des phrases qui se travaillent avec 2-3 collaborateurs. On répète, on le fait plusieurs fois. Ou avec Chirac, par exemple, en 88, c'était tout le temps l'appeler Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre. Alors, on avait répété ça, on était 3-4 autour de lui, dans son bureau à l'Élysée, et on lui parlait, il devait donc toujours nous dire Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre. Et il l'a fait excellemment, parce qu'il avait un talent inouï.
Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Alors, Émilie Rousset, pour rentrer dans la fabrique de vos propositions, comment est-ce que vous avez procédé alors pour Rituel 4, le grand débat? Ça commence comment? Vous regardez tous les captations des débats présidentiels du deuxième tour, vous faites déjà un premier montage, comment ça se passe?
Oui, c'est ça, avec Louise on a regardé tout à la suite, donc ça fait un peu plus de 13 heures.
Quand même.
Voilà.
Et à force.
et ensuite on met tout sur. En fait, on monte que ce soit des interviews que moi je fais ou que nous on fait, des matériaux documentaires donc de première main si je puis dire, ou des archives comme là. C'est vraiment toujours un montage sur de la bande sonore, donc un travail que vous connaissez bien à la radio et un travail d'écriture que moi je trouve extrêmement plaisant, jouissif à pratiquer en fait, parce que c'est comment aussi on crée du sens, du rythme, de l'absurde, de la poésie. Mais donc voilà, avec Louise, on a regardé tous les débats à la suite. Ensuite, on avait quand même un axe, on savait aussi que, enfin on sait ce qu'on regarde, c'est-à-dire que notre axe c'était aussi une forme, c'est-à-dire qu'on voulait interroger comment la mise en scène de la télévision crée une forme de parole, en fait. Donc, c'était aussi lié à ça. C'est-à-dire que, avec Louise Aymon et Marine Atlan, la chef opératrice qui a travaillé avec nous, on a vraiment fait aussi toute une écriture du chant contre chant. C'est-à-dire que, parce que Serge Moati, là, que vous venez de passer, il y a aussi. On l'a rencontré avec Louise Aymon pour le projet. Et en fait, ils ont énoncé après le premier débat de 1974, où François Mitterrand ne s'était pas senti très bon et pensait qu'il avait perdu aussi à cause de ça. Ils ont édicté des règles de mise en scène qui devaient être acceptées par la partie adverse. Au départ, c'était pour que le débat soit annulé, celui de 81. Mais en fait, ils ont accepté, du coup, mais des règles de mise en scène aussi intéressantes, c'est-à-dire l'interdiction du plan de coupe.
On ne peut pas avoir le visage de celui qui écoute. On a le visage que de celui qui parle, ou de celle.
Voilà, parce que si vous commentez ce que je suis en train de dire par une mimique défavorable, ça imprime un sens à ce que je suis en train de dire. Mais règle sur laquelle on est revenu aujourd'hui, puisqu'il y a le split screen où on voit en permanence les visages.
Mais ce dispositif, vous l'interrogez dans ce grand débat Rituel 4 avec donc Laurent Poitrenaud et Emmanuel Lafond qui incarnent chacun un certain nombre de candidates et de candidats, avec ce dispositif aussi qui est d'avoir une oreillette, d'avoir le son réel pour avoir une reproduction de l'intonation, d'être dans la justesse, dans l'hésitation aussi parfois. Mais ça va bien plus loin parce qu'il y a ensuite quelque chose qui va glisser vers une forme très différente, puisque vous allez jouer sur les éclairages, vous allez jouer sur les postures de vos interprètes qui ne vont pas rester simplement face à face autour de cette grande table comme c'est le cas dans les débats. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans ces différents glissements que vous proposez?
Ben, c'est ça, c'est-à-dire que nous, on est vraiment parti de ce champ contre champ de la télévision qui se veut une mise en scène soi-disant neutre, en fait, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Et petit à petit, ce champ contre champ se déconstruit, c'est-à-dire qu'au plateau, Emmanuel Lafond et Laurent Poitrenaud ne se regardent plus, sauf qu'à l'écran, ils se regardent encore, parce que c'est les axes de caméra qui nous font croire qu'ils se regardent encore. Petit à petit, en fait, les corps quittent la table. Petit à petit, les éclairages de télévision plein feu changent pour donner des contre-jours. Les cadrages changent et tout d'un coup, ce qui se dit ne prend plus le même sens. Donc c'est ça qui nous intéressait aussi, c'est comment interroger le fait que la mise en scène n'est jamais neutre, que le regard n'est jamais neutre.
Et que ça change l'écoute.
Et que ça change l'écoute. Et c'est ce que dit aussi Milo Rao, si j'ai un peu compris ce dont il parle. C'est-à-dire que le documentaire d'auteur ou d'autrice, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une manière de regarder. Et à partir du moment où il y a un média, il y a une mise en scène.
En ce moment, c'est Rituel 5, La mort, qui est en tournée, Émilie Rousset, Emmanuel, je pensais au président de la République, peut-être, créé dans le dispositif Talent Adami Théâtre. Donc là, il s'agit de travailler avec des jeunes interprètes, 8 pour vous, en faisant entendre des personnes qui ont chacune un lien avec les rituels liés à la mort, encore des spécialistes, consultantes en funérailles écologiques. J'ignorais ce métier de prestataire de QR code pour pierre tombale, des créateurs d'emails post-mortem, etc., des architectes de cimetières verticales. Au départ, dans ce spectacle, quelques-uns des interprètes sont vus sur grand écran, qui est sur le plateau, mais ils sont derrière l'écran. On voit le bas de leur corps. Et puis ensuite, les interprètes vont être tous devant l'écran, c'est-à-dire devant nous, spectateurs, spectatrices, chacun avec son pied de micro. Alors, la parole va circuler, parfois de façon chaotique, parfois il va y avoir des monologues. Là, encore une fois, il s'agit de savoir comment est-ce que vous, avec Louise Aymon, toujours, vous montez, et qu'est-ce que ça produit aussi de faire comme ça, parfois, se choquer ces paroles, s'entrechoquer ces paroles.
Là, ce qui nous intéressait, c'est aussi qu'on a mené beaucoup d'entretiens par Skype. Et c'est quelle langue crée cette nouvelle manière de communiquer, de parler, et de déplacer cette manière d'avoir cette manière de parler qui est souvent entrecoupée, qui crée d'autres types d'interprétations de ce que l'autre dit que quand on est vraiment face à face et qu'on se parle et qu'on se regarde dans les yeux. La technique est au milieu, crée des hiatus et reproduit. Produire ça au plateau, c'est mettre en exergue quelque chose du langage, le mettre à la loupe et montrer aussi ce qui se dit dans ce qui ne se dit pas, ce qui se joue dans une forme d'inconscient de la langue et comment la langue pense et la pensée nous fait parler. Donc c'est ça en fait qu'on essaie de saisir. C'est vraiment, vous parliez du coup de la pratique de l'oreillette, c'est pas tant pour être au plus proche d'une reproduction que pour saisir quelque chose de l'ordre du mouvement. C'est-à-dire que c'est des textes qui en fait ne pourraient pas exister à l'écrit. Si on retranscrit à l'exact les textes que l'on a, c'est illisible, incompréhensible en fait. Parce que on parle n'importe comment en fait, on finit pas nos phrases, on revient en arrière, on bifurque, on a des tics de langage absolument horribles quand on écoute vraiment dans le détail. Et ça serait des textes écrits illisibles. Donc ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est que tout d'un coup, ça nous donne une matière textuelle qui ne peut exister que comme ça. Et théâtralement, ce sur quoi on travaille, que ce soit Laurent Poitronneau, Emmanuel Lafont, ou le groupe d'acteurs, d'actrices de Rituel 5 La Mort, c'est vraiment sur le mouvement de pensée. C'est quoi ce texte qui n'existe que dans le mouvement, en fait? Et comment ce mouvement, il n'existe même pas en soi, il n'existe qu'avec un récepteur en face, c'est-à-dire que il ne se termine que avec la compréhension, la réception ou l'interrogation de la personne en face. Et pour moi, ça, c'est vraiment une matière théâtrale.
Alors, autre proposition, parce qu'il y a beaucoup de propositions actuellement visibles en France, alors profitons-en. Reconstitution, le procès de Bobigny, on en avait parlé évidemment sur cette antenne, parce qu'elle a été créée en 2019 au T2G à Gennevilliers, dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Repris cette année, version actualisée, on va en parler, mais là encore on va d'abord avoir une petite archive, 1972, interactualité avec Jean-Claude Bourret.
Ambiance passionnée au tribunal de Bobigny hier après-midi. Quatre personnes comparaissaient pour avortement et complicité de manœuvres abortives. En novembre 71, la jeune Marie-Claire, 17 ans, s'est aperçue qu'elle attendait un enfant. Après avoir été obligée, a-t-elle expliqué, de subir les violences d'un voyou. Marie-Claire s'est donc faite avorter. Elle a été jugée le 11 octobre dernier pour cela et relaxée. Mais il y a quelques heures, c'était la mère de Marie-Claire, deux de ses collègues de travail qui lui avaient indiqué une adresse et la faiseuse d'ange que l'on avait trouvée à cette adresse, qui étaient toutes les quatre dans le box des accusés. Par-delà les cas personnels, des manifestantes à l'extérieur du tribunal ont voulu poser le problème plus général de l'avortement libre et gratuit.
Avortement libre et gratuit ! Avortement libre et gratuit ! Avortement libre et gratuit !
Les avocats de la défense, eux aussi, ont dénoncé cette vieille loi archaïque. Maître Gisèle Halimi a déclaré « S'est-il déjà trouvé dans cette enceinte de justice la femme d'un haut fonctionnaire, d'un médecin célèbre, d'un chef d'entreprise ? Vous jugez toujours les mêmes, les Madame Chevalier. »
Alors Gisèle Halimi, dont on parlait hier avec Estelle Meyer, qui elle aussi a travaillé autour de cette personne si importante. Alors une nouvelle fois, Émilie Rousset, c'était avec Maya Bocquet que vous avez conçu cette proposition reconstitution le procès de Bobigny, mais c'est vous qui avez conçu le dispositif très particulier dans lequel chaque spectateur est invité à choisir, à se promener, à mener son propre chemin. On en a à la rencontre de 15 interprètes qui sont dans l'espace, comme ça, de quel que soit l'espace d'ailleurs, aller entendre les enjeux politiques et sociaux qui entourent cette question de l'avortement. Chaque interprète est assis et on peut choisir d'aller écouter son propos en mettant un casque sur nos oreilles. On s'installe et on a donc des écoutes partagées avec d'autres qu'on peut quitter pour aller à l'écoute suivante, si je puis dire. D'abord, encore une fois, comment est-ce que vous avez choisi ces voix à faire entendre ?
Alors, avec Maya, on est tombé sur cette archive de 1972. Un peu d'émotion quand même aujourd'hui, ouais. Avec l'avortement qui est rentré dans la Constitution depuis lundi. Donc,
j'allais vous en parler.
Voilà, grâce quand même à ces militants et militantes et à cette, les militantes d'hier et d'aujourd'hui, qu'on remercie. Donc on a découvert cette archive, les minutes du procès, qui a été publiée chez Gallimard, par l'association Choisir la cause des femmes, l'association Gisèle Halimi. Et c'était une archive extrêmement touchante, extrêmement riche, parce que Gisèle Halimi fait le procès de la loi qui interdit l'avortement, plus que le procès qui... avec le procès de défense de Marie-Claire. D'ailleurs, c'est intéressant, subir les violences d'un voyou, c'est-à-dire être violé.
C'est le langage de l'époque. Hein,
voilà.
Dans ce média-là.
Voilà. Mais donc on tombe sur cette archive. Gisèle Halimi, dans ce procès, invite à la barre ce qu'elle appelle des grands témoins, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément directement concernés ou directement témoins de l'affaire de Marie-Claire Chevalier. Donc c'est Simone de Beauvoir, c'est des prix Nobel de biologie, c'est Michel Rocard, c'est Delphine Seyrig, c'est Françoise Fabian. Donc il y a vraiment des grands noms, mais aussi des gens qui ont un discours et des propos très engagés, très forts, qu'ils ont envie de porter et très, très intéressants. Il y a aussi évidemment les plaidoiries, celles de Gisèle Halimi, celles de Monique Antoine, des autres avocats et avocates aussi, qui sont très, très belles. Donc on tombe sur une archive très intéressante. Ça rejoint des discussions qu'on a avec Maya sur aussi ce qui se passe aujourd'hui, cette nouvelle vague de féminisme qui nous intéresse et à laquelle on a envie de participer. Ça fait écho. Et la démarche qu'on va avoir, qui donne le dispositif du spectacle, en réalité, c'est vraiment de déplier l'archive, c'est-à-dire de se dire, cette archive-là, pardon, comment est-ce qu'on la comprend et qui est-ce qu'on peut aller voir pour la faire exister aussi, qu'elle devienne un peu en trois dimensions. Donc on a eu envie d'aller voir des témoins de l'époque qui étaient au procès pour certains, donc Claude Servan-Schreiber qui était au procès, ou Françoise Fabian qui était témoin au procès, qui nous ont raconté leurs souvenirs et c'était assez fort, ou des témoins historiques qui n'étaient pas forcément au procès mais qui étaient militants et militantes à cette époque, donc par exemple Christine Delphi, sociologue, fondatrice du MLF, ou René Friedman, gynécologue, obstétricien que vous connaissez bien, France Culture. Mais d'autres personnes aussi qui n'étaient pas forcément nées à l'époque du procès, mais qui continuent à réfléchir à ces questions, à militer. Donc on a été voir, par exemple, c'est une version réactualisée oui. de la pièce. Donc là, par exemple, on a été voir Stéphanie Hennette Vaucher, qui est professeure de droits fondamentaux et qui a été consultée par les législateurs pour faire entrer l'IVG dans la Constitution. On a aussi été voir Alban Gaillot, qui est porte-parole chargée de plaidoyer au planning familial et qui a porté aussi une loi en 2021 qui a fait passer l'avortement de 12 à 14 semaines. Donc voilà, on a aussi vu Myriam Paris, qui est une chercheuse historienne, spécialiste de ce qui s'est passé à l'époque à La Réunion, parce que c'était pas du tout la même politique, en fait, en France et à La Réunion. Il y avait des avortements forcés, des ligatures des trompes forcées, et une politique de contraception, en fait, sur les femmes. Donc voilà, c'était la pièce s'appelle Reconstitution, alors qu'on ne reconstitue pas, en fait, on va dire physiquement, enfin, il n'y a pas de robe d'avocat, de tribunal, etc. L'idée, c'est que on place le spectateur exactement comme Maya et moi on s'est trouvé, c'est-à-dire qu'il y a des fragments de l'archive concrètement dans le dispositif que le spectateur, la spectatrice peut prendre, et le spectateur, la spectatrice choisit d'aller voir telle ou telle personne pour l'écouter sur cette archive, et chacun ressort avec une reconstitution mentale, en fait, de ce qu'a pu être cet événement et de ce qu'il est pour nous aujourd'hui.
Alors justement, à ce propos, il y a évidemment pas plus théâtral qu'un tribunal, qu'un procès. Donc ça, vous le déconstruisez totalement. Et puis, il n'y a pas que, effectivement, ces minutes du procès de Bobigny. Il y a donc toutes ces paroles, encore une fois, de spécialistes, Émile Rosset. Mais il y a deux choses importantes. C'est que d'une part, c'est encore une fois mieux entendre, mieux écouter dans ce dispositif que vous proposez. Mais c'est le spectateur qui fait son montage. Alors ça crée quand même quelque chose de très nouveau par rapport aux autres propositions.
Oui, bah c'est une pièce où c'est bien aussi que sur une pièce qui parle du choix à disposer de son corps, que le spectateur ait le choix de disposer de son parcours. C'est ça en fait qu'on propose. Mais toutes les pièces en fait cherchent à laisser cette place-là d'écriture à celui qui regarde. C'est-à-dire que c'est toujours des pièces où ce qui est écrit et ce qui est proposé, c'est finalement de faire du vide autour de quelque chose pour que le spectateur et les spectatrices puissent y ressentir et y avoir son propre imaginaire et sa propre compréhension. Moi, ce que je cherche à faire au théâtre, c'est qu'on puisse réfléchir ensemble.
Alors, ce sera le cas, j'ai lu que c'était la prochaine proposition, affaire familiale. Là, on va rentrer dans le cabinet d'avocates spécialisées en droit de la famille. Alors là, ça va recouvrir encore beaucoup de questions et de problématiques différentes et qui montrent qu'il y a des lignes de force, évidemment, dans votre travail, Émile Rosset. Mais je voudrais quand même évoquer en quelques mots paysage partagé, parce que là, on est encore dans un autre type de proposition. Alors, c'est une proposition qui va se promener en Europe à l'invitation, il faut le dire, de Caroline Barnaud du Théâtre Vigny-Lausanne et de Stéphane Caegui de Rimini Protocol. J'ai pu voir une captation réalisée à Avignon, plutôt près d'Avignon, puisqu'il s'agit cette fois de... Alors, on n'est plus du tout dans la boîte noire, mais puisqu'on parle de nature, on emmène les spectateurs, là encore munis de casques, en l'occurrence à Avignon, ils sont dans une vigne, et on va en apprendre autant sur la politique agricole d'une commune que sur les chants des oiseaux. Vous allez présenter où cette proposition ? Parce qu'à chaque fois, selon le lieu, ce seront des spécialistes différents qui seront de l'endroit où vous allez aller ?
Alors, pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la pièce qui se réécrit, qui est la partie écrite avec l'agriculteur ou l'agricultrice locale, voilà, qui nous accueille et qui vient avec sa machine nous raconter lui sa pratique. Donc il y a des parties de texte qui sont traduites et d'autres parties qui se réécrivent in situ. Après, ça se recrée aussi à chaque fois avec des performeurs locaux, donc dans la langue du pays, avec des performeurs locaux et avec une partie qui serait écrite également. Donc c'est ce qui est formidable pour moi, parce que c'est pas juste, c'est déjà génial de tourner les pièces, hein, mais là c'est aussi à chaque fois rencontrer vraiment et des artistes, et des agriculteurs, des récits en fait que je n'imaginais même pas rencontrer. Par exemple, là à Berlin, où on l'a recréé cet été, j'ai rencontré un agriculteur qui fait du foin de luxe, c'est-à-dire qui fait, là où la botte de foin, je ne me souviens plus des chiffres exacts, peut-être je dis des bêtises, coûte 100 euros. Lui, il fait du foin qui coûte 1000 euros la botte, mais parce que c'est des bottes de foin qui sont vraiment faites de plusieurs types d'herbes qui sont vraiment composées aussi par rapport au cheval, à son âge, si c'est un cheval de course ou c'est un cheval plutôt... pas sportif, avec des techniques aussi pour la mettre en botte particulière pour pas qu'il y ait de pourriture au centre.
Alors il faudrait qu'il y ait une captation de chacune des étapes. Alors est-ce que c'est prévu ça ? Est-ce que ça se fait ?
Un peu.
Bon. Non, mais parce que
après, il faut monter, après, c'est pas tout d'archiver, il faut aussi les monter, etc. Mais oui.
Bon,
j'enregistre tout.
Bon, vous manquez pas de travail. On a essayé de donner quelques idées un peu de ce riche parcours, en rappelant que Reconstitution, le procès de Bombini, version réactualisée, ô combien. Au Volcan, c'est National du Havre, 12 et 13 mars, au TNB à Rennes, 22, 23, 24 mai, ce sera dans le festival Transform. Rituel 5, la mort, au Théâtre Garonne à Toulouse, le 20, 21, 22 mars, au Sub à Lyon, le 26 et 27 mars, au Lieu Unique à Nantes, les 16 et 17 avril, et puis les paysages partagés se promènent toujours, bientôt en Autriche, en Italie, en Portugal, en Slovénie, en Espagne. Merci beaucoup, Émilie Rousset, d'avoir été notre invitée.
Merci beaucoup.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Rares sont les villes américaines à porter une identité musicale aussi forte qu'Atlanta. Riche d'une longue tradition bluegrass et country, la capitale de l'État de Géorgie est surtout connue pour être le berceau de la musique trap, l'une des dernières grandes révolutions du rap. La musicienne et chanteuse Faye Webster est une enfant légitime de ce mariage entre musique traditionnelle et hip-hop sudiste. Depuis son premier album, paru en 2013, alors qu'elle n'avait que 16 ans, elle a su développer une identité sonore distinctive, à la fois éthérée et enveloppante. Réussissant à allier pedal steel et R&B, elle parvient à séduire un public de plus en plus large. Inspirée de sa tendance à acheter des billets à la dernière minute pour se rendre à l'Orchestre Symphonique d'Atlanta, et donc à s'y rendre dépareillée, le titre de son nouvel album, Undress for Symphony, atteste du charme décalé de la musicienne. Souvent ironique, elle n'en demeure pas moins touchante, comme sur le morceau But Not Kiss, notre son du jour.
I want to sleep in your arms, but not kiss you. I long for your touch. to see you in my dreams, but then forget.
C'était But Not Kissed de Faye Webster qui sera en concert au Trabendo à Paris le 29 mai.
France Culture, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je suis toujours à Marrakech pour la 17e édition du Festival international de danse contemporaine On Marche. Au programme ce soir, des collaborations avec les institutions françaises, des artistes jeunes marocains qui présentent leur travail, des festivaliers fidèles qui avalent des kilomètres pour être présents et une co-création entre le directeur Taoufiki Zediou et la chorégraphe canadienne Danielle Desnoyers. Bref, le monde élargi de la danse se trouve à Marrakech ce soir.
Je m'appelle Nejma Haj Ben Chalabi, je suis dramaturge basée à Bruxelles et je collabore avec le Festival En Marche depuis des années. Et depuis 2 ans, je collabore principalement sur la plateforme TechLif pour travailler ensemble, pour passer le relais à la prochaine génération, pour pouvoir supporter, soutenir, accompagner des prochains chorégraphes et artistes au Maroc. C'est un appel destiné aux artistes marocains pour le moment. Et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui et qui vont rester avec nous jusqu'à samedi soir. Et aujourd'hui, on a le dernier jour et les 2 derniers projets, last not least, in English. Bon spectacle.
Sylvain Gros, je suis le directeur depuis avril 18 du Centre chorégraphique national de Roubaix. CCN et vous dans les Hauts-de-France.
On se retrouve ici à Marrakech parce que vous êtes membre du jury du prix TechLif qui est donc pour cette 2e année. Hein, voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots à quoi correspond ce prix et quels sont les liens du coup entre le CCN de Roubaix et ici le Festival On Marche ?
Bah, je fais partie du jury pour pouvoir détecter des projets, des chorégraphes, des créatrices, des créateurs qui ont tout le potentiel pour déclencher un véritable travail. Donc c'est leur donner les moyens de chercher.
Ce sont uniquement des artistes marocains ?
Oui, ah oui, exclusivement. C'est vraiment le potentiel chorégraphique contemporain actuel, et c'est ce que Taoufik Izediou repère. C'est avec Nejma, ils font tout un travail de repérage. Il y a une shortlist qui est faite, ils sont 8 ou 9 par session, et sur les 3 jours, nous les rencontrons. Il y a les coups de cœur, il y a un concours, c'est-à-dire qu'il y a un classement, et l'important pour moi, c'est d'avoir un véritable coup de cœur sensationnel, dans les 5 sens compris, pour venir inviter ce projet en France, au centre chorégraphique, sur au moins 2 semaines de résidence, voire 3 semaines, lui faire rencontrer les acteurs culturels de la région et lui donner les moyens de créer. Donc ça veut dire une coproduction et ça veut dire des allers-retours avec le Maroc, avec, et surtout mieux diffuser, mieux produire avec d'autres structures.
Bonjour, je suis Victoire Jacquet, doctorante en anthropologie de la danse. Je travaille à Marrakech depuis presque 5 ans maintenant.
Pourquoi vous avez choisi comme terrain Marrakech ? Est-ce qu'il y a une spécificité de la danse contemporaine ici ?
L'idée était, dans mon travail de recherche, de tisser les liens, ou en tous les cas, replacer la danse contemporaine dans un continuum musico-chorégraphique, local, et mondialisé. Donc il s'agissait de comprendre un peu les enjeux qui entourent, disons, les spécificités de la production, de la création, de l'invention, de l'inspiration depuis Marrakech, qui est assez spécifique parce qu'aussi il y a une grande, c'est une ville très internationale. Donc il y avait des enjeux de circulation importants.
Mais est-ce que par exemple, il y a des spectacles dans le festival On Marche qui se passent dans l'espace public.
Oui.
Est-ce que le corps féminin dansant est un problème aujourd'hui au Maroc, où les femmes peuvent danser dans l'espace public sans problème ?
En fait, c'est moins une question de genre qu'une question de danse. Au sens où le corps dansant dans l'espace public est problématique, ou la professionnalisation d'un artiste danseur ou danseuse est en soi problématique. Être artiste professionnel danseur ou danseuse est de toute façon une situation que personne n'envierait pour ses propres enfants.
D'où l'importance aussi de festivals comme On Marche, j'imagine, qui sont aussi une plateforme...
Comme espace de soutien, oui, des ambitions des jeunes danseurs et danseuses.
Là, le calme revient ici à l'Institut français. Tout le monde se met en place pour assister à la représentation de la dernière pièce de Taoufik Izediou, le directeur du festival.
Alors, je m'appelle Danielle Desnoyers, je suis chorégraphe d'une co-création avec Taoufik Izediou.
On vient de vivre ensemble ici à l'Institut français. Est-ce que c'est la première fois que vous vous prêtez à ce jeu de co-création ? C'est pas rien de créer une chorégraphie à quatre mains.
Oui, absolument, c'est la première fois. C'est assez rare d'ailleurs que des chorégraphes co-créent ensemble. Généralement, on travaille beaucoup avec des collaborateurs de d'autres disciplines, mais deux personnes aussi qui sont de culture chorégraphique totalement différente. C'est vraiment un exploit qu'on ait travaillé ensemble. Puis je pense que c'était ça le défi, c'était d'arriver à travailler ensemble, à avoir ce dialogue culturel aussi.
J'imagine aussi que les danseurs ont travaillé avec des danseurs qu'ils connaissaient peu ou pas. Il y a aussi toute une collaboration au-delà de la co-création sur le plateau avec des corps qui apprennent à s'apprivoiser.
Ben, tout à fait. Ils ne se connaissaient pas du tout. Taoufik a choisi des danseurs de son côté, moi du mien. Et on s'est retrouvés en studio. Et là, ben, en studio, c'était comme si on se connaissait depuis toujours.
Et quel thème vous avez voulu développer dans cette pièce ?
En fait, je pense que Taoufik et moi, nous sommes pas très narratifs dans notre travail. On est plutôt, d'une certaine façon, abstrait, mais très sensible à l'énergie qui se déploie sur scène. Je pense que l'énergie, elle propulse les corps dans l'espace et cette énergie dit quelque chose. Donc, ça, je pense qu'on partage, mais on a des formations totalement différentes. La mienne est peut-être plus académique et Taoufik amène toute sa grande force d'interprète avec lui. Il trimballe tout ce bagage qu'il a comme interprète, comme créateur. Fait que c'est ce mélange des genres, ce mélange culturel qui fait que, en fait, on est totalement différents. C'est pour ça que ça marche. Ouais.
Bonsoir, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu l'année dernière à ce même festival. Est-ce que vous êtes un spectateur fidèle?
Oui, je suis un spectateur très fidèle depuis de nombreuses années.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce festival?
Un peu le mélange de culture. Hein.
Le voyage.
Vous
explorez des nouveaux horizons, moi ça me plaît beaucoup.
Vous venez d'où?
La dernière, Perpignan.
Le Perpignan. Et donc chaque année, vous venez à Marrakech pendant le temps du festival.
Oui. Puis, voilà, on est tombé un peu amoureux de ce festival. Ça nous plaît beaucoup quand on vient. Et c'est vrai que ça nous permet aussi de découvrir Marrakech, d'aller des endroits insolites de Marrakech, parce que ça aussi, c'est pour le préciser, parce que c'est des endroits où on va en général. Ça nous, et puis, voilà, ça nous permet de voir des spectacles de danse contemporaine autres, quoi. Voilà.
Donc vous êtes des vrais spectateurs de danse.
Vrai, je ne sais pas, mais on aime beaucoup.
Vous aimez beaucoup.
Et que peut-être, dans ma vie, j'ai raté ça.
Parce que vous voudriez être danseur.
Mais la prochaine.
Voilà, exactement, la vie prochaine. Merci beaucoup, en tout cas, merci.
En fin de festival, on amène une grosse composition florale qui représente chaque année, la 17e année, 16e année. Et puis voilà, à chaque fois, c'est une originalité différente.
Mais parce vous que c'est découvrez. Votre métier, vous êtes fleuriste?
J'ai été fleuriste. Et puis le festival nous inspire. Puis c'est notre façon aussi, à nous aussi de dire merci pour tout ce que vous nous avez proposé. Ça, c'est vraiment important pour nous aussi. Quand même.
Merci beaucoup. Merci. Merci.
Suite du Grand Tour, demain, Marie Sorbier, où serez-vous?
Eh bien demain, Arnaud, nous serons au Jardin Majorel de Marrakech, qui fête cette année leurs 100 ans.
Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.